Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Et bonjour à tous, bienvenue dans le Mac de l'Immo, bienvenue sur Radio Immo, on est ravis d'être avec vous pendant 45 minutes et c'est le moment d'accueillir notre invité. Aujourd'hui c'est Thierry Herrmann qui nous rejoint, le CEO de Herrmann Frères et Fils. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous recevoir.
Ravis d'être là.
Alors merci de jouer le jeu donc, de ce Mac de l'Immo. C'est vrai qu'on va apprendre à vous connaître. Donc pendant 45 minutes, on va parler de vous, on va parler de votre parcours, on va parler de votre entreprise Herrmann Frères et Fils. Vous allez nous expliquer comment vous en êtes arrivé là. Et puis vous êtes également aux commandes de la programmation musicale. Alors ça a commencé avec la première musique qu'on connaît tous, I Will Survive. Enfin non, peut-être que les 2000 ne connaissent pas.
Ouais.
C'était évidemment pour la Coupe du Monde de 98, c'est bien ça?
Oui, là, on m'a demandé deux musiques qui ont quelque chose de signifiant pour moi. Donc après pas mal de réflexions, celle-ci était de réels souvenirs de supporters de football, l'équipe de France. Et je sais pas, on en parlera tout à l'heure. J'ai eu la chance de m'impliquer dans le monde du football. Et voilà, donc c'est une musique qui me rappelle de bons souvenirs.
Et ben voilà, on en parlera dans quelques instants. Là, j'imagine que vous avez suivi peut-être un peu le rugby. Vous aimez le sport?
J'ai eu la chance d'être lundi au stade. Enfin, la chance pour l'ambiance et le match.
Ouais.
Et bon, la défaite, malheureusement. Mais bon, ça, c'est un bon état d'esprit. Et oui, j'ai suivi le rugby aussi.
Bon, c'est bien, un bon sportif. Bon, on écoutera donc votre autre choix musical dans quelques instants. Vous nous direz pourquoi. Alors, on va commencer peut-être avec votre parcours. Alors, comment est née déjà l'entreprise voilà, comment vous en êtes arrivé là?
Alors, l'entreprise...
Entreprise familiale.
Oui, elle a été créée, j'étais évidemment pas né, en 1946 par mon grand-père, qui l'a créée juste après la Deuxième Guerre mondiale. À la base, avec son frère, donc à la base, ça s'appelait Herrmann Frères. Ils étaient intermédiaires, agents immobiliers. Assez vite, fin des années 50, ils se sont retrouvés dans les premières sociétés à faire de la mise en copropriété, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la découpe d'immeubles. Donc l'entreprise a vécu toute une évolution. Mon père a rejoint l'entreprise dans les années, je dirais, fin 70-80, début 80 peut-être.
Donc votre père s'est pas posé de questions. Et juste votre grand-père, il a toujours été dans l'immobilier?
Il venait d'un milieu assez modeste avant la Deuxième Guerre mondiale. Il était plutôt, c'était dans un milieu plutôt agricole. Il aidait son père et au fur et à mesure, assez jeune, il a été impliqué dans des transactions d'intermédiation et d'achat de terrains agricoles en Alsace. Et en revenant il a fini dans l'armée française dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il s'est dit, en revenant en Alsace, après avoir été caché aussi quelques années, qu'il pourrait faire de l'intermédiation d'appartements. Et au fur et à mesure, il est devenu ce qu'on appellerait aujourd'hui marchand de biens. Après marchand de biens, société foncière. Mon père a pris la suite. Donc, c'est passé de Herrmann Frères à Herrmann Frères et Fils. Et voilà, moi j'ai eu un parcours finalement universitaire, assez classique. J'ai fait une école de commerce. L'ESSEC. Mmh. Et j'ai rejoint l'entreprise au décès de mon papa, il y a 13 ans. J'avais 27 ans, un peu à la base pour aider mon frère, qui était un peu perdu. J'ai voulu l'aider, et je pensais que je ferais un parcours court. Je voulais consacrer à un moment donné ma vie à autre chose, j'ai perdu mon père très jeune. Et finalement, j'ai trouvé un objectif dans ma vie qui était de continuer les affaires de la famille, de mon père, de mon grand-père. Et donc, je trouve une satisfaction à continuer ces affaires-là.
C'était un devoir pour vous? Est-ce que vous l'avez ressenti un peu comme ça?
En fait, j'ai une chance, j'ai finalement été formé par mon père et mon grand-père en les observant énormément. J'étais passionné, je suis toujours par le football et je parle beaucoup de football ou de sport avec mes enfants, plus jeunes, des jeunes. Mais moi, je posais des questions sur les affaires de mon père ou à mon grand-père, qui très jeune me cherchait à l'école, mon grand-père, pour me parler de ses affaires et j'ai trouvé ça passionnant. Et bon, c'est avec beaucoup de recul, finalement j'ai été formé très très jeune par mon père et mon grand-père, parce que je passais beaucoup de temps à leur poser des questions, et puis eux étaient très contents d'y répondre.
Mmh. Vous avez des enfants aujourd'hui?
J'en ai trois.
Est-ce que vous aimeriez qu'ils prennent la suite plus tard?
J'ai franchement, à ce stade, j'ai envie qu'ils soient heureux, et on verra. S'il y en a un qui veut
pas
travailler
forcément
avec moi,
c'est pas quelque
il
n'y
a aucune volonté, j'ai envie de dire, dynastique, je ne sais pas si c'est le mot. Après, j'ai envie qu'ils soient heureux. Puis,
ouais.
S'ils font autre chose, ils font autre chose. S'ils veulent travailler, si l'entreprise est toujours là, on essaye de la faire évoluer, je serais très heureux. Je les emmène de temps à autre à mon bureau, plus par des problématiques d'emploi du temps qu'autre chose, mais s'ils amusent pour l'instant. Mais bon, à ce stade, c'est beaucoup trop tôt, mais pourquoi pas.
Alors, vous avez commencé votre carrière professionnelle chez Unibail en Asset Management.
Alors oui, non, j'ai fait donc un parcours. D'abord, j'ai fait du droit à la Sorbonne, puis j'étais à Strasbourg au départ, la faculté de droit, où je pense que j'ai voulu faire. Mon père était docteur en droit. Lui-même avait été Alors lui, à Assas, mais il était docteur en droit, donc je crois que j'ai voulu lui faire plaisir. Donc bon, j'ai fait du droit, même si j'avais au fond de moi la volonté de faire de l'immobilier, pour là aussi vouloir faire comme mon père ou mon grand-père. Et puis assez vite, quand je suis sorti de l'école de commerce, bon alors, c'était une société extraordinaire, que t'as plus grosse société foncière cotée en bourse à l'époque. Ils n'avaient pas encore acheté Rodamco, je crois que j'étais l'entreprise quand j'étais là, mais j'étais pas moteur, quand ils ont acheté Rodamco. C'était Guillaume Poitrinal qui en était le président. Et puis voilà, donc j'ai commencé dans l'asset management de centres commerciaux et j'ai fini à faire de l'asset management dans le pôle bureau.
D'accord. Et ça vous a pas plu plus que ça?
En fait, je me suis vite rendu compte, quand je suis rentré dans l'entreprise, j'avais des grandes ambitions personnelles et pour l'entreprise, que finalement c'était très hiérarchisé, oui. Et que j'étais assez en bas de l'échelle, ce qui est tout à fait normal quand
vous
je commençais.
Vous étiez frustré?
Non, mais j'ai vite remarqué que ça correspondait pas. C'était une très grande entreprise. Bon, après j'ai appris beaucoup de choses, mais enfin c'est une époque révolue. On faisait beaucoup d'acquisitions à l'époque avec des data rooms qui étaient papier. Donc je passais énormément de temps à analyser des documents, m'intéressait assez peu, ouais. Dans des salles où il y avait pas de fenêtres. À un moment donné, je passais de la frustration du moins.
Ça vous plaisait pas, quoi. Vous étiez pas heureux dans ce que vous faisiez.
Voilà, je pensais que quand je suis rentré que j'allais construire des tours à la Défense. C'était pas eux le faisaient, le groupe faisait, mais pas moi.
Ouais, il y avait un pas entre ce
clairement.
Que. Ouais.
J'étais peut-être trop ambitieux, trop jeune.
Alors, vous qui vous êtes né en Alsace, c'est ça, hein?
Voilà, je suis né à Strasbourg le 9 mai 1980, qui est la veille de l'élection de François Mitterrand. Donc, il y a beaucoup de gens qui se rappellent à peu près plutôt du 10 que du 9. Moi, je suis du 9 mai. Et je suis né à Strasbourg.
Né à Strasbourg, aujourd'hui parisien. Est-ce que l'Alsace vous manque? Est-ce que vous y retournez régulièrement, j'imagine?
Oui, alors j'y retourne régulièrement. J'ai eu la chance pour m'impliquer dans pas mal d'affaires locales, dans le club de football de Strasbourg. Donc, j'ai encore des occasions d'y retourner régulièrement. Évidemment, je me sens alsacien. J'habite à Paris depuis pratiquement 20 ans, à peu près autant de temps à Paris qu'à Strasbourg. Bon, après, j'adore ma vie ici, j'ai bien aimé là-bas. Et au fond, je me sens toujours alsacien. J'ai beaucoup encore d'amis là-bas ou d'Alsaciens soit à Paris. De toute façon, aujourd'hui, le pays étant très centralisé, la plupart même de mes amis chefs d'entreprise ou qui ont des fonctions importantes... De près ou loin, sont obligés de passer beaucoup de temps à Paris.
Après, bien
ça
sûr.
Fait 20 ans que je suis là, j'aime ouais. bien les deux.
Est-ce que vous imaginez vieillir à Paris ou...
À vrai dire, je ne pense pas encore à vieillir, enfin, ouais. à ma retraite, mais au fond, non. C'est-à-dire que moi, j'aime bien partir le week-end à la campagne. Bon, du coup, j'ai plutôt à l'ouest, vers la Normandie, c'est plus facile d'accès, j'ai envie de dire, mais je préférais de vivre dans... Les week-ends, quand j'ai plus de temps libre, moi, j'aime bien aller ailleurs qu'à Paris, même si pendant la semaine, je trouve que le... Que ce soit d'un point de vue culturel, des événements, de la vie de société, il se passe beaucoup plus de choses intéressantes ici. On fait beaucoup de rencontres diverses et variées, professionnelles et personnelles, ouais. qui font une grande attractivité de Paris.
Alors, concernant votre entreprise, donc Herman Frères et Fils, pouvez-vous nous expliquer, nous présenter votre entreprise, nous expliquer ce que vous faites concrètement?
Oui, bien sûr. Donc, historiquement, on a une société foncière, donc on détient des immeubles principalement de centre-ville, qui sont en général des emplacements de bonne qualité, voire très bonne qualité, qu'on détient sur des périodes longues avec des logements, des bureaux, des commerces, de la logistique, un peu d'hôtellerie. Voilà, donc assez diversifié à Strasbourg, à Paris, sur la Côte d'Azur, au Luxembourg. On a donc un certain nombre d'actifs qu'on détient, qu'on gère en bon père de famille. On a une partie.
Donc, qui vous appartiennent. Hein.
Voilà, qui nous appartiennent soit à nous, des associés, et qu'on gère sur le très long terme. Et une fois plus, la politique, c'est bon père de famille. On essaye de choisir des emplacements de grande qualité. On aime bien diversifier.
Donc, c'est quoi les emplacements de qualité? C'est Paris intramuros?
C'est beaucoup de Paris intramuros, du centre-ville de Strasbourg, du centre-ville de Nice, du centre-ville de Lyon. Donc, en général, c'est des axes plutôt connus, avec une politique de diversification. Donc, beaucoup de logements, beaucoup de bureaux, des ensembles, on dirait à Paris haussmannien. On a quelques immeubles dans le quartier où est située la radio, donc vers l'Opéra, vers la Bourse de Paris, au centre-ville de Strasbourg, au centre-ville de Nice, mais qui sont des objectifs de placement de mon père de famille, donc sur le long terme, et qu'on gère quand on fait des nouvelles acquisitions avec des crédits de 15 ans, de 20 ans. On essaie donc d'avoir une politique de stabilité, de revenus locatifs. On essaye en ce moment de faire un certain nombre de travaux pour essayer au fur et à mesure d'adapter avec les nouvelles normes, les problématiques environnementales. Donc au fur et à mesure, on essaye d'adapter notre patrimoine aux besoins actuels.
De le rénover aussi, j'imagine.
De les rénover et de profiter du moment pour essayer d'intégrer les problématiques de consommation énergétique le mieux qu'on peut. Dans un deuxième axe, on a une société de valorisation d'immeubles, donc de marchand de biens finalement, où aujourd'hui c'est devenu vulgaire, donc on dit promoteur-rénovateur. Donc on achète des immeubles ou des biens immobiliers, ça peut être des sociétés qui détiennent des biens immobiliers, dans le but de les revendre 2 ans, 3 ans après avec une plus-value. Donc on crée de la valeur, ça peut être la mise en
compte. C'est aussi court que ça, c'est 2-3 ans après
Des fois c'est plus long, hein, actuellement dans le cycle qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on avait prévu 2 ans, on va rallonger de 2 ans.
C'est
si les banquiers souhaitent de continuer à nous financer, c'est un peu plus long. Donc effectivement, à la base, on essaye de faire des plus-values, on va dire, à court-moyen terme, mais toujours en créant de la valeur, il n'y a pas de solution miracle. Alors on essaye d'acheter. Mon grand-père disait souvent, parce que j'ai une règle simple, quand tu achètes 2 plus 2, ça fait 3, quand tu revends 2 plus 2, ça fait 5. Et ça, on peut l'appliquer à peu près à tout commerce, et donc commerce d'immeubles. Après, ça peut être des stratégies, ce qu'on appelle le build-up, ce qu'on a beaucoup fait les dernières années, c'est-à-dire qu'en achetant 5 entrepôts, on va dire, dans 5 villes différentes, au 5e, ça vaut un peu plus, parce qu'il y a un investisseur institutionnel qui sera content qu'on a fait la petite main pour lui. On a fait récemment un entrepôt à Rouen, un à Caen, un à Paris, un à Strasbourg et un à Mulhouse. Les 5 valaient plus d'argent auprès d'une grosse SCPI il y a donc un an et demi que pris individuellement.
D'accord, parce que ça les arrange d'acheter un lot plutôt
fait,
que d'acheter
un... Ils peuvent pas
donc là, on
acheter...
est sur la logistique. Un entrepôt, c'est logistique.
Ça peut être de la logistique, ça peut être du logement. C'est tout type de problématique avec un immeuble finalement sous-jacent qui nous permet de créer de la valeur. Ça peut être par l'obtention d'un permis de construire, ça peut être la conversion d'immeubles de logement au bureau. On a beaucoup fait ça les dernières années. À Paris, on achetait des immeubles mixtes de logement et de bureau. On obtenait des transformations en bureau, on les louait et on les revendait avec une plus-value liée à ce travail-là, qui est administratif, financier, des fois de politique de travaux, d'asset management. Bon, ça c'est donc un deuxième pôle pour l'entreprise. Et un troisième pôle qui est plus récent, qui est la gestion pour le compte de tiers. Donc la gestion pour le compte de tiers, ça on fait à peu près les deux autres métiers, les deux premiers, mais on le fait avec des associés ou avec des sociétés de gestion qui collectent des fonds. On a à peu près, l'année dernière, levé une centaine de millions d'euros auprès de sociétés de gestion qui eux-mêmes collectent de l'argent auprès de particuliers ou de petits institutionnels. Ils nous le confient et nous, on fait des investissements, on fait la création de valeur pour eux et on partage la plus-value au bout de quelques années. Alors là, c'est des cycles plutôt moyens, longs, souvent c'est 5 ans, 6 ans, mais l'objectif est de créer de la valeur et d'y être associé par notre gestion et la répartition d'un bénéfice à la fin. Donc ça, c'est 3 gros métiers. Et après, il y a un quatrième métier sur lequel on a des grosses ambitions, qui sont l'hôtellerie, la para-hôtellerie. Et là, on a pas mal de projets qui sont en cours, certains... Il y a pas mal de sujets qui sont actuellement, et donc ce sera là, pareil, dans le cadre de la diversification.
Et ça, l'hôtellerie, ce serait quoi? Ce serait de la gestion ou ce serait les murs, à part les murs?
Non,
les deux.
Nous, on a toujours une politique foncière.
Foncière, donc c'est uniquement les murs?
Non, les murs
et la gestion.
Et la gestion, mais c'est de la création, de la valeur par l'exploitation, donc par la détention des fonds de commerce aussi.
D'accord, aussi.
On associe, mais par contre, nous, on se positionne sur de l'investissement au fond, ce qui nous intéresse, c'est les murs. L'association avec l'exploitation nous permet de tirer un meilleur profit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on passe plus de temps à réfléchir à comment tout ce qu'on a en patrimoine, comment on pourrait l'exploiter.
Et là, par exemple, l'hôtellerie, c'est quoi? Le but, c'est de vous diversifier?
C'est de la diversification, et aussi, on voit que la France a un certain nombre d'atouts autour du tourisme, de par ses régions. On a beaucoup de régions qui ont beaucoup d'attraits, localement, internationalement, et les chiffres sont bons. Et toute la politique de l'entreprise a toujours été de s'adapter à la demande et de se diversifier pour grossir. Donc on a commencé à Strasbourg, on est allé à Paris, on est allé à Lyon, on est allé à Nice, on a commencé dans le logement, on a fait du bureau avec le groupe, on a récemment fait de la logistique, maintenant on fait de l'hôtellerie, on faisait pour notre compte, on a fait pour compte de tiers, et en fait plus on diversifie, plus on a de sources de revenus et plus l'entreprise est pérenne.
Et vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Parce que vous avez forcément une préférence. Qu'est-ce que vous aimez faire?
Moi, je suis entrepreneur. Puisque j'ai vu mon père être entrepreneur, j'ai vu mes deux grands-pères sur des secteurs différents être entrepreneurs. J'aime prendre des initiatives. J'aime bien prendre des risques limités, mais des risques aussi. Donc j'aime mon métier, j'aime faire des rencontres, j'aime soutenir des projets, les défendre, les voir grandir. Là, tout ce qui est hôtellerie, c'est tout à fait nouveau. On a un projet.
Donc c'est ça, c'est des nouveaux challenges en fait.
Les challenges.
C'est se surpasser.
Bon, mon travail, malheureusement, c'est de gérer les problèmes, mais j'aime bien faire face et satisfaction quand on fait avancer nos choses. Et surtout, mon père m'a souvent dit, dans le métier qui est le nôtre, par exemple, quand tu construis ou tu rénoves un immeuble, il va rester. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait, on est très fiers de certains des immeubles qu'on a livrés récemment. Et ben, un jour, dans 10 ans, je passerai peut-être devant un immeuble avec quelqu'un, avec ma femme, mon fils, un ami, et je dirai, regarde ce que mon père a fait, ce que moi j'ai fait. L'immeuble peut embellir une ville. Donc, au final, notre quotidien, c'est des fois de se dire, on apporte notre pierre à l'édifice à la ville. Alors c'est un peu, ça pourrait paraître prétentieux, mais c'est pas le cas. C'est vraiment, on a un objectif d'embellir les quartiers, on essaye de... Alors des fois, c'est notre goût personnel qui est persuadé qu'on a fait les choses bien. On voit 10 ans ou 15 ans après, si tel est le cas.
Est-ce que l'environnement, le climat, c'est quelque chose qui vous touche, justement, ce qui se passe en ce moment avec, bon, il y a beaucoup de réglementations, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup avec l'été qu'on a passé. Là, il fait chaud alors qu'on est au mois d'octobre.
Je suis comme vous et certaines personnes qui écoutent. Malheureusement, on en voit les conséquences actuelles. On est extrêmement préoccupé. Personne n'a envie de tomber malade à cause du soleil parce qu'il ferait trop chaud, parce qu'il d'un coup il fait trop. On voit bien que les variations. Bon, on en a tous pris conscience. Bon, pour moi, l'écologie n'a pas besoin d'être politique. C'est-à-dire que fondamentalement, je pense que l'écologie est un souci majeur. Et on a peut-être compris plus récemment qu'à travers l'immobilier, effectivement, la consommation de CO2 est extrêmement corrélée à l'immobilier. Bon, après, quand on vit dans du clos et du couvert, il n'est pas possible d'avoir de l'immobilier, des immeubles sans consommation énergétique. C'est juste impossible. Donc, à moins d'habiter dehors, on va faire face à ce problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en dehors du fait que c'est des contraintes, et c'est le cas, et c'est lourd, et il faut trouver, et puis des fois, on ne va pas dans le bon sens, à mon avis. Mais néanmoins, on a un certain nombre de contraintes. Mais d'un autre côté, il y a aujourd'hui des solutions assez incroyables. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent vite. Il y a beaucoup de processus nouveaux. Il y a des salons comme le salon du bas carbone qui peuvent nous amener des nouvelles idées, une émulation extraordinaire. Et aujourd'hui, on arrive à faire des choses vachement bien. Après, sur le neuf, il y a un réel impact, réel, immédiat, en termes de consommation, c'est clair. Dans la rénovation, qui nous habite plus, tous les efforts n'ont pas les résultats encore escomptés. Donc c'est très difficile, puisque nous, on a un certain nombre de contraintes, on a aussi des idées, et tout ne va pas toujours en termes de réglementation dans le bon sens. Après, la prise de conscience, elle est là pour tout le monde, et...
Comment ça
ne
va pas toujours dans le bon sens, la réglementation ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ?
Aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup des fenêtres, des toitures. Il y a des systèmes, avec le système des C2E, qui permet d'avoir des aides majeures pour les pompes à chaleur. Exemple type, on achète tout un immeuble, une des premières choses qu'on nous propose, et des fois qu'on fait, on met les pompes à chaleur. Et finalement, par le système des C2E, c'est, entre guillemets, gratuit. Pour moi, rénovateur.
Donc, c'est certificat d'économie d'énergie. Hein, pour
certificat d'économie d'énergie. Donc, moi, il y a une société d'un prestataire qui vient. Il m'explique qu'il peut enlever tout le système de chauffage et mettre quelque chose de plus moderne, qui sont les pompes à chaleur. Bon, sur le papier, ça paraît extraordinaire. Effectivement, le système des pompes à chaleur, ça va dans le bon sens. Maintenant, si la pompe à chaleur n'est pas calibrée par rapport à la taille du bâtiment, ça n'a aucun sens, parce que ça risque de consommer plus qu'avant. Or, si vous calibrez bien, c'est formidable. Mais les installateurs qui sont aujourd'hui subventionnés, pour certains, ne se soucient pas ou ne savent même pas qu'on peut calibrer. Donc, le bon sens, c'est la pompe à chaleur. Là où ça n'a aucun sens, c'est que le calibrage, si ce n'est pas par rapport à la taille du bâtiment, ça ne marche pas. Il y a des travaux prioritaires à faire. Les changements de ballons d'eau chaude ou d'eau froide, les ballons, ce qui appelle l'eau dans un immeuble. Aujourd'hui, il y a des systèmes de ballons thermodynamiques. Ça ne coûte pas très cher à mettre en place. C'est juste ce qui permet d'appeler l'eau que vous avez besoin. Prenez votre douche. Ça appelle l'eau dont vous avez besoin pour vos douches. Mais la plupart des gens ne le font pas. L'État, l'administration n'oriente pas forcément ça de manière prioritaire. Or, ça ne coûte pas très cher. Ça marche de manière concrète. Et on est beaucoup plus habité par des pompes à chaleur. Beaucoup les problématiques de fenêtres. Alors oui, le double vitrage, ça marche mieux que le simple vitrage. Mais on est dans des systèmes d'aide, de compensation divers et variés qui n'ont pas toujours l'impact. Et d'ailleurs, les premières études... En Allemagne, ils ont un peu plus d'avance sur le recul, les études avec un peu de recul sur les travaux qui ont été faits sur la rénovation. Il n'y a pas encore d'amélioration claire, alors que des milliards ont été dépensés.
Pourquoi, pour vous, il n'y a pas assez de recherche en fait sur sur ces méthodes. Et
je pense que ça, c'est un point. Vous avez un très bon point. On voit qu'aujourd'hui, on a des très bonnes entreprises en France dans le bâtiment. On a des champions. Mais l'effort de recherche et développement en France, il n'est pas assez important. Et bien souvent, on achète finalement des gens qui ont eux-mêmes innové dans notre pays.
Quels pays, par exemple, sont un peu plus en avance?
Plutôt les pays, on va dire, de l'Est de l'Europe commencent à être très forts. Certains pays nordiques sont très bons. Mmh. Après, on a des grands atouts aussi en France qui ne sont pas assez exploités. Comme on doit être le troisième plus gros pays européen en termes de densité de forêt. On devrait beaucoup plus travailler dans l'exploitation du bois à des fins de la filière bâtiment, on le sous-estime. Donc en fait, on a beaucoup de qualités en France autour de la recherche et développement, du nombre d'ingénieurs. On a des forêts et je pense qu'on devrait être leader dans beaucoup de choses liées à l'impact et à l'utilisation de cette recherche et développement pour l'immobilier. Une fois de plus, l'immobilier consomme du CO2. Et ça, celui qui pense que c'est une utopie, c'est une utopie de penser qu'on va vraiment ne pas faire des bâtiments qui consomment pas
après,
d'énergie.
Après, ça existe.
C'est...
Regardez, il y a les bâtiments à énergie positive. Là, il y a une tour qui vient d'être inaugurée à Dijon produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme avec des panneaux photovoltaïques sur le toit.
Alors tout à fait. Alors on n'est pas un pays où il y a un ensoleillement. Enfin, dans tout le pays, il n'y a pas d'ensoleillement majeur. Alors, ouais. Après, on va dans le bon sens. Une fois plus, ce que je vous dis dans mon propos d'avant, en termes de construction neuve.
C'est pas possible de faire ça, c'est pas réplicable.
Exactement.
Pour tous les bâtiments.
Dans la construction neuve, on est capable de faire des choses excellentes. Maintenant, on est dans un pays, c'est partout dans le monde, où on construit de moins en moins en pensant que c'est mauvais pour l'environnement de construire. C'est peut-être possible, mais si on fait du neuf, on sait faire de la très bonne qualité environnementale. Sur la rénovation, c'est pas encore possible.
Alors, rénover, vous le faites bien, vous rénovez aussi des bâtiments historiques ? Notamment à Nice.
Oui, alors on contribue souvent à la rénovation de centre-ville. Donc on achète des bâtiments qui sont souvent chargés d'histoire et dont on essaye. De toute façon, là aussi, on travaille avec les architectes des bâtiments de France, avec les architectes des villes.
Mais c'est obligatoire quand c'est.
Tout à fait obligatoire. Et on participe à un processus de rénovation, des fois de changement d'usage. Alors, vous citiez Nice, un immeuble très historique où c'est le siège de la BNP locale qu'on a en partie rénové. On a loué des locaux à la ville de Nice de Nantes. On a un très gros projet avec des associés, la famille Vajrot, qui sont des gens de l'Est de la France, à Strasbourg, où on est propriétaire d'un immeuble historique, l'immeuble historique du Monoprix de Strasbourg. Et l'objectif, c'est sur les étages, de transformer des anciens des réserves d'anciens grands magasins en auberge de jeunesse, avec le groupe Accor et avec un rooftop, accueillir les gens et faire revivre le centre-ville urbain. Alors ça, c'est des projets. Une fois qu'on l'a posé, qu'on a le bâtiment, qu'on a convaincu le groupe Accor, qu'on a trouvé un modèle économique, il faut encore convaincre la mairie, il faut encore y mettre du logement social. C'est la volonté de la mairie qu'on adhère tout à fait à cette idée-là. Mais après, encore faut-il trouver le bon modèle économique sur le bâtiment. Mais l'idée, c'est qu'on prend des bâtiments, les usages peuvent être complètement dépassés, qu'on ne stocke plus les réserves d'un supermarché dans le centre-ville, mais on peut le transformer en autre chose. Mais c'est
Vous changez carrément le quartier, en fait. C'est plus qu'un bâtiment. Hein. Vous modifiez le quartier, c'est assez incroyable. Autre fierté, si je vous dis Christian Dior, c'est un bâtiment qui vous tient à cœur.
Oui, alors on a été il y a 4-5 ans, je dirais, on a fait l'acquisition avec deux associés historiques, dont quelqu'un qui est un mentor et un ami proche, Michael Benabou, président de la financière Saint-James, fondateur historique du site Vente Privée VP, et ses équipes. On a acheté un bâtiment juste derrière les Champs-Élysées, à l'angle de la rue Galilée et de la rue Vernet. Bon, l'objectif... On a réussi de manière négociée à sortir un certain nombre de locataires, vider l'immeuble, obtenir un permis de construire. Et là, on a vraiment pu transformer un immeuble vieillissant, ancien, mélange d'un immeuble historique et d'un immeuble, pas dire moderne, un immeuble des années 70, qui était extrêmement énergivore et plus du tout adapté à la demande. Donc, on a sorti les locataires et on l'a transformé en un immeuble neuf. On est allé très loin dans les processus énergétiques. On a eu tous les labels possibles du moment.
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Alors BB, CH, on a obtenu tous les labels qu'on pouvait. On a cherché l'excellence sur du rénové. Ouais. Donc ce qui est assez rare, surtout en milieu urbain. Et surtout, on a parti...
Enfin, c'est rare, c'est compliqué à faire. Surtout.
Très compliqué à faire. Mais on est parti du principe que c'est comme ça qu'on crée la valeur. Et on a utiliser un maximum de matériaux, recycler un certain nombre de matériaux du bâtiment existant. Bon, quand les architectes ont dit ça, on va... Les sociétés, notamment le groupe Vinci, ont expliqué qu'on allait utiliser ce qui existait déjà pour refaire les faux planchers. Autant dire qu'on n'y a pas trop cru et qu'on n'a pas bien compris. Ils ont expliqué qu'il y aurait moins de camions qui faisaient aller-retour. Enfin, ça ne semblait pas très clair au départ. C'est à 5 ans, 4 ans. Et ça s'est avéré que ça s'est fait. Donc, on a beaucoup appris. Et on s'est dit, on va faire le mieux possible pour essayer, nous, d'en tirer la meilleure valeur. Bon, il s'avère que finalement, on est très fiers de cet immeuble qui a un certain nombre de récompenses. Et on l'a loué à Christian Dior, bon, qui est un peu le symbole de l'excellence française.
C'est ce qu'il recherchait, le groupe Christian Dior.
Ah, il cherchait des bureaux dans ces quartiers-là, ouais. Neufs ou quasi neufs. Bon, autant dire que neuf, il n'y en a pas, donc là, ça s'assimile à du neuf. Et bon, Christian Dior, il cherche à peu près toujours l'excellence. Donc, quand il vient nous louer un bâtiment, on se dit, c'est une fierté. Et quand on a décidé de le vendre, bon, bah, ça attirait à peu près tous les investisseurs qu'il y avait encore à ce moment-là. Autant dire que c'est plus difficile de vendre aujourd'hui. Et tout le monde était attiré par le locataire de qualité et un immeuble de qualité. Après l'opération, elle a été commenée avec nos associés. La financière Saint-James a fait un travail incroyable. On a pris un bon pari au bon moment.
Quand, cette transaction ?
On l'a vendue il y a 7-8 mois. Et encore dans des conditions de marché exceptionnelles. Donc on a eu un taux de rendement extrêmement bas, donc un bon prix. Maintenant, c'est un immeuble très rare et je crois que notre acheteur, la caisse du personnel navigant était très contente de cette transaction, nous aussi.
Donc tout le monde était content.
Je pense que tout le monde est content et là pareil, cet immeuble il va rester. On a un dernier étage qui offre une vue assez incroyable sur tout Paris, une accessibilité, il y a des étages de parking, il y a un amphithéâtre et surtout il va consommer de manière tout à fait adaptée son énergie et donc finalement ça c'est une grande fierté de travail. On a vraiment créé de la valeur, fait des travaux, eu un bon locataire, un bon timing de vente. Bon, après, les opérations qui se déroulent aussi bien, c'est pas toujours le cas.
Est-ce que c'est toujours le cas ? Parce qu'à vous entendre, ça paraît si simple, ça paraît si facile. Après, bon, vous avez un certain savoir-faire, certes, mais est-ce que c'est fréquent, ce genre d'opération ou
Cette opération était d'une taille conséquente, un chantier conséquent. On a eu aussi des débats, hein, à un moment donné, on a eu le Covid, donc tout s'est arrêté. On a eu des problèmes, on avait un hôtel à côté qui estimait, qui essayait de nous faire arrêter notre chantier, donc c'est pas toujours si simple. Le permis de construire a été dur à obtenir, on fallait satisfaire l'architecte de la ville, urbaniste de la ville de Paris, il fallait la commission du Vieux Paris, enfin ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux, et puis pas toujours que des bonnes nouvelles, même si on y a fini. Et aujourd'hui,
mais vous savez rebondir.
C'est rebondir dans le marché d'aujourd'hui, de manière globale, pour tous les opérateurs dont on fait partie, faire face à des taux d'intérêt qui ont été multipliés par 4, des rythmes de vente qui ont drastiquement baissé, la demande qui change, des problématiques environnementales, je crois que ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu autant de challenges, de difficultés sur certaines opérations. Après, il y a des secteurs plus simples que d'autres, mais on fait face à un certain nombre de soucis de marché actuellement, et donc il faut tenir bon. Et c'est sûr, ce n'est pas le cycle le plus simple. Les 13 dernières années étaient plus simples. On achetait des immeubles dans le cycle d'avant le lundi, il valait un peu plus cher le vendredi. Donc c'était pas facile, mais on était un cycle haussier de 13 ans. On fait face à un cycle baissier, et donc voilà, faut l'affronter différemment.
Alors on va faire une courte pause musicale, on va écouter votre seconde musique, puisqu'il n'y en a que deux. Une musique importante pour vous, puisque c'est celle de votre mariage, voilà. Et c'est Bon Jovi, Always. On écoute et vous nous expliquerez cela juste après.
Can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Now your picture's there, you left behind all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, put those words of mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Always. If you told me to cry for you, I could.
Voilà, Bon Jovi, Always sur Radio Imo. On est toujours avec Thierry Herrmann. Thierry Herrmann, le CEO de Herrmann Frères et Fils. Alors, cette musique, on l'a dit juste avant, c'est la musique de votre mariage. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés ?
13 ans.
13 ans. Mariage à Rome, c'est ça ?
Alors, le civil à Strasbourg, hein, faut respecter le fait que t'es... ce sont des Strasbourgeois et que j'étais ravi de pouvoir le faire là-bas. Et après... bon, c'est pour des raisons personnelles, je voulais que ça se fasse dans un cadre un peu différent parce que mon père n'était plus là, et donc on a cherché une ville sympa, et puis on a eu l'opportunité de se marier en Italie.
Et alors pourquoi cette musique ? Pourquoi ce choix ?
Ce choix-là, c'est une musique que j'aime bien, je trouve que la mélodie plus les paroles sont assez exceptionnelles, puis le nom de la chanson Always est un bon symbole, une musique de qui symbolise le mariage et pour toujours, puisque c'est un peu le principe de cette musique.
Alors, on parle de famille, c'est vrai que votre entreprise, c'est une entreprise familiale. Travailler avec sa famille, ça a du bon, mais est-ce que parfois, ça peut être un peu compliqué ?
Oui, alors c'est pas toujours simple. Après, on a eu la chance d'hériter de cette entreprise, on l'a fait fructifier, on y a travaillé. Après, c'est pas toujours facile. Alors, j'ai eu une seule chance, c'est que j'avais mes deux grands-pères qui ont travaillé en famille, dans des secteurs différents, dans des entreprises différentes, avec des fonctionnements différents.
Donc, le papa de votre maman et le papa de votre papa.
Voilà. Donc, j'ai toujours été habitué, finalement, comme des fois, je peux mélanger la vie personnelle et professionnelle. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'immobilier, donc des fois, on peut mélanger les conversations, ça ne pose aucun problème. Mais effectivement, il faut savoir quand même dissocier sa pure vie personnelle du professionnel, parfois. Et moi, j'ai tendance à un peu tout mélanger, donc des fois, je suis rappelé... par les uns, par les autres, de mettre de côté la vie professionnelle pour s'occuper du personnel.
Et alors, pour répondre à ma question, qu'est-ce qui peut être plus compliqué quand on travaille en famille ? Est-ce que, par exemple, quand on doit se dire des choses pas très sympas, ça
toujours,
complique
ou... Oui, c'est plutôt ça. C'est plus compliqué.
Parce qu'il y a de l'affect.
Il y a de l'affect, mais bon, après, c'est culturellement comme ça que se développe l'entreprise. Et puis, alors, j'ai de la chance j'ai des nouveaux projets que je mène de manière plus indépendante ou avec ma femme également.
Donc, votre femme travaille aussi dans l'entreprise ?
Non, elle ne travaille pas dans l'entreprise. Elle est consultante sur certains sujets. Mais par contre, là, on a développé des choses autour de la para-hôtellerie qui sont à la base à partir de constats qu'on a eu, elle et moi, en Normandie. On s'est dit, tiens, il manque un truc, c'est les maisons de campagne à usage flexible. C'est-à-dire quelqu'un qui veut louer une maison de campagne pour 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et donc, à un moment donné, j'avais des copains qui disaient, ah, tiens, on revient vous rejoindre un week-end, où est-ce qu'on peut loger ? L'hôtellerie est très chère, il n'y a rien à côté, on veut un truc un peu sympa, un peu plus éloigné du centre-ville. Et donc, fort de ce constat, j'ai commencé à travailler sur un projet les week-ends. Donc, tous les week-ends, on est en train de finaliser une rénovation d'une ancienne, un ancien corps de ferme avec un ancien pressoir et des bâtiments plus de sa vocation agricole normande. Vraiment des bâtiments avec beaucoup de cachets. On les a rénovés dans un lieu de para-hôtellerie avec un service hôtelier. Et donc, c'est des maisons de campagne qu'on peut louer le week-end ou la semaine. Ça peut être des regroupements de cousins, ça peut être une entreprise, ça peut être un couple. Et donc, fort de ce constat, comme je travaille les week-ends, ma femme m'a dit, mais attends, moi aussi j'ai des idées. Et donc, elle m'a appuyé sans travailler dans l'entreprise, mais elle m'a appuyé, elle a passé beaucoup de temps. Et on a choisi une architecte dont on est proche, qui a fait beaucoup de projets hôteliers, qui s'appelle Adriana Shore Weiss, et qui a fait des rénovations d'hôtels très connus. Et donc, bah, au bout d'un moment, on a passé tellement de temps que le loisir est devenu professionnel. Donc, je peux travailler avec mon frère, je peux travailler avec ma femme, je peux travailler avec des copains. J'ai mon meilleur ami qui est un de mes associés dans le foot, qui est toujours mon associé dans le club de football, et on est reparti sur une nouvelle aventure autour du sport. Il y a un petit mélange qui fait que des fois, ça peut piquer plus, puisqu'on a envie de, tranquille avec tout le monde.
Et est-ce qu'il y a des... Alors, je vais prendre le truc dans le sens inverse. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous travaillez qui ne sont pas de votre famille ou pas de vos amis?
Ah oui, bah, ouais. Oui.
C'est possible ça, de vous associer, ça peut arriver?
Oui, alors, on a beaucoup d'associés. Alors, j'ai eu tendance à mélanger, puisque j'ai beaucoup de gens que j'ai connus à la base d'un point de vue professionnel, dont des gens qui sont devenus presque de la famille ou des amis très proches, et des gens qui sont à un moment donné devenus des gens très importants dans ma vie personnelle. Et à la base, c'était une relation professionnelle. Après, le personnel et le professionnel, on a des hauts, des bas, il faut qu'on se parle souvent. Des fois, ça peut être le soir, ça peut être le week-end. Mais bon, moi, j'ai une chance, c'est que je me réveille. Pour moi, ce n'est pas une contrainte d'aller travailler. Parce que depuis très jeune, mon père, il m'emmenait voir ses chantiers, mon grand-père, pareil, donc je ne le vis pas comme une contrainte.
Est-ce que vous aimez aussi ce que vous faites?
J'adore ce que je fais. Ma deuxième monde professionnel, c'est dans le sport, donc c'est quand même très chanceux. Donc globalement, je ne vis absolument pas comme une contrainte le principe de travailler, d'exécuter ces projets.
Vos semaines sont quand même bien remplies, j'imagine que vous bossez, oui, 7 jours sur 7?
À peu près. Mais après, j'ai la chance de... pouvoir aussi passer pas mal de temps. Maintenant, j'organise ma vie avec un peu de télétravail pour m'occuper de mes enfants. Même si, évidemment, la priorité, c'est la famille. Mais après, comme je ne le vis pas, ma charge de travail n'est pas une contrainte. Donc, je peux travailler à peu près tout le temps sans que ce soit trop problématique. Je peux travailler de chez moi, je peux travailler dans les transports. Je me déplace beaucoup puisqu'on a des activités dans des villes différentes. Donc, je me déplace vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, les nouveaux moyens de travail et de transport font qu'on peut très bien travailler en voyageant. Donc en fait, c'est assez chanceux finalement. Les contraintes du Covid qu'on a tous eu, pour moi, ont été finalement une bonne avancée professionnelle. J'ai envie de dire, je faisais déjà un peu de télétravail avant le Covid.
Donc dans le train, vous pouvez vous concentrer, répondre
dans
à des
train,
mails.
Dans les hôtels. Après, j'ai une autre chance, c'est que j'ai un sommeil assez fragile et j'ai assez récupérateur. Donc bon, c'est une chance, c'est que j'ai pas besoin d'énormément de sommeil. Donc je peux commencer assez tôt, finir assez tard. Après, il y a beaucoup de relations publiques, on va dire, dans le travail. Là, pareil, mon épouse m'accompagne dans beaucoup d'événements. Moi, je suis assez sociable à la base. Donc, j'ai souvent un à deux cocktails par jour, des dîners ou de la représentation à faire. Mais bon, à vrai dire, j'aime ça. Donc, les événements auxquels on doit aller ne sont pas toujours tous aussi sympas les uns que les autres. Mais
oui. Parfois, globalement, faut le faire, on n'a pas forcément...
Globalement, on n'est jamais à l'abri de faire une rencontre sympa.
On va peut-être terminer alors avec le foot. Donc, vous nous disiez en début d'émission que ça faisait partie de votre vie. Vous avez joué au foot?
Non, j'ai fait plutôt du tennis. Après, aujourd'hui, je fais du golf, beaucoup de padel. Mais j'ai malheureusement eu des carrières dans le sport. J'étais un amateur moyen à peu près dans tout, mais dans pas mal de sports différents. Et le foot...
Au moins, vous avez essayé.
J'ai souvent joué les week-ends à la plage avec des copains, mais j'étais rarement celui qu'on mettait devant pour marquer des buts.
Peut-être dans les cages.
J'étais médiocre aussi. Après, c'est pour ça, ma frustration de joueur a pu me renouveler en dirigeant, co-dirigeant.
Donc co-dirigeant, donc 11 ans dans le foot. Parlez-nous un petit peu de cette.
Alors en 2012, le club de foot de Strasbourg est tombé dans une situation financière extrêmement précaire et avec très peu de temps pour réagir à la demande du maire de l'époque. J'étais dans les personnes impliquées pour sauver le club, donc le racheter, avec un associé qui est devenu un ami aussi proche, Marc Keller, qui restait président. On a fait un gros travail d'assainissement des comptes, du club. On l'a remis à un niveau professionnel. C'est notre 7e saison en Ligue 1. Au moment où on a cédé le club l'été dernier, pour un tas de raisons, à contre-cœur, même si c'était une bonne affaire, mais c'était à contre-cœur, mais avec une satisfaction personnelle énorme, on avait remis le club de la 5e division et en péril, en première division, 7 ans en Ligue 1, un trophée qui était la Coupe de la Ligue, alors que c'était déjà à l'époque du PSG avec le Qatar, donc on a vraiment fait des choses super. On a commencé le chantier d'un nouveau stade, et pour nous c'était extrêmement important de cet aboutissement, et aujourd'hui, on l'a revendu cet été, aux propriétaires de Chelsea. Voilà, les propriétaires de Chelsea sont devenus aussi propriétaires de Strasbourg. Président du club est resté le même. On s'est assuré d'une certaine continuité. Et Et je suis reparti, alors je peux pas encore exactement l'annoncer, c'est en cours de finalisation, mais avec mon meilleur ami d'enfance, Pierre-Emmanuel Veil, dans une nouvelle aventure autour du sport, donc j'espère voilà, qu'on pourra en parler une autre fois, mais une aventure tout à fait différente, c'est plus dans un club, mais on est parti dans des aventures nouvelles, dans le monde du sport, et donc voilà, ça continue ma vie extra-professionnelle dans le sport.
Donc le sport, l'hôtellerie, vous aimez vous diversifier en fait, vous aimez...
Oui,
est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous fait pas envie?
Ah, il y a plein de choses, il y a plein de défis à relever, il y a plein d'idées. Aujourd'hui, on est fasciné, moi, par l'intelligence artificielle.
Ouais.
On est fasciné. D'ailleurs, on travaille sur un lieu, quitte à pas se reposer, on travaille sur un lieu dans Paris avec des gens connus de l'entrepreneuriat, sur une sorte de maison, mais pas que de l'intelligence artificielle, plutôt la maison de la recherche et développement et de l'intelligence artificielle dans Paris. Donc pour avoir un lieu de vie, une sorte de tiers-lieu autour du monde de la recherche et du développement, mais comme très axé sur l'intelligence artificielle. Donc je suis très admiratif, moi, des gens qui aujourd'hui, moi je me sens totalement incapable. Il y a aujourd'hui une Coupe du Monde, pas de football, une Coupe du Monde de la recherche et développement. Et récemment, j'ai pu observer comment ça fonctionnait. Je me sens complètement idiot à côté de gens qui arrivent à faire des codes et qui ont un impact finalement beaucoup plus rapide aujourd'hui qu'il n'y paraît entre ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils arrivent à développer.
On est vendredi, allez on finit le mag avec ça, on est vendredi, c'est le week-end, qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end?
Alors ce week-end, samedi j'ai de la chance, j'ai un copain qui vient de l'étranger à Paris, et donc on a fait tout un programme, il vient de Bucarest, qui habite entre Londres et Bucarest, que j'ai rencontré il y a 2-3 ans, et il vient à Paris, donc je vais faire le tour opérateur avec
le guide.
Lui, samedi, et puis
vous
le soir...
Vous allez où?
Bah, on va faire. Je crois qu'il voulait voir, je sais plus quelle exposition qu'il a réservé, qu'on va voir ensemble, je crois, au musée Picasso. Et puis le midi, on va déjeuner un lieu pas très loin de la Tour Eiffel. Et bon, après, on va se promener. Je crois qu'il voulait. Donc, on avait prévu d'aller dans le Marais, enfin, un tour de touriste. Et le dimanche, c'est le PSG qui affronte Strasbourg à Paris, qui est pour moi un moment sympa parce que j'emmène mes enfants et. On a tout un groupe de copains de Strasbourg qui vient chaque année. J'ai un de mes copains qui était aussi actionnaire, qui habite sur la Côte d'Azur, qui vient chaque année. Donc c'est un moment convivial. C'est sportivement difficile, mais la convivialité sera certainement là. Et puis,
on espère faire au mieux. Strasbourg.
Évidemment. On ne peut pas changer, jamais, je crois, dans sa vie de club, de supporter d'un club. Donc,
c'est vrai.
Donc il n'y a aucun problème. Je ne sais pas pour qui vous supportez. Mais...
Ah, moi, c'est Lyon. C'est
Lyon,
compliqué, mais...
qui est une année un peu difficile, mais qui a un très beau stade.
Oui, qui a un très beau stade, mais bon, c'est pas la meilleure période pour l'OL. Bon,
pas
en tout cas, ouais, c'est vrai. Merci infiniment Thierry Herrmann, merci d'avoir joué le jeu du Mac de Limo. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite sur Radio Imo.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.